Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Black and Blue, c'était un célèbre morceau de jazz, mais aussi l'émission sur le jazz de France Culture. En 1976, le 25 janvier, elle était consacrée au célèbre saxophoniste, clarinettiste et compositeur américain de jazz, Lester Young.
Black and Blue, nous allons réécouter ce soir la musique de Lester Young et entendre dialoguer à son propos Bernard Cerchiglini et Henri Renaud, qui sont deux familiers de l'art de Lester Young. Tout d'abord le journal, les nouvelles d'Alain Gerbert et de Paul Alessandrini. Alain Gerbert, tout d'abord, ce n'est pas l'ordre alphabétique ni l'ordre de mérite, c'est l'ordre qui tient à l'habitude dans notre émission.
Information dans Le Monde la semaine dernière, Chester Burnett est mort. Chester Burnett, c'est le nom qui était inscrit sur la carte d'identité de Howlin' Wolf, chanteur, harmoniciste et guitariste de blues, bien connu en France où l'on avait eu l'occasion de l'applaudir. Howlin' Wolf, loup hurlant, n'était pas le premier surnom de Burnett, que ses amis avaient d'abord appelé Taureau puis Grand Pied. Il était né, Howlin' Wolf, le 10 juin 1910, dans le Mississippi, plus exactement à Aberdeen, mais n'avait commencé de faire parler de lui qu'assez tard, à l'âge de 38 ans. C'est en 1948, en effet, que Ike Turner, qui était alors disc-jockey, s'intéressa à lui et le recommanda aux responsables des disques Chess qui l'invitèrent dans leur studio. Il allait devenir, par ses enregistrements successifs, l'un des maîtres incontestés du blues moderne, guitariste assez fruste, qui pratiquait le bottleneck sans génie, harmoniciste déjà plus intéressant, et chanteur, alors là, tout à fait magnifique. Howlin' Wolf avait un maître, Sonny Boy Williamson, un rival prestigieux, Elmore James, et un disciple très remarquable, Hubert Sumlin, qui fut son accompagnateur pendant de très nombreuses années, et qu'il considérait aussi comme son fils adoptif. Howlin' Wolf est mort à 65 ans. Le plus horrible dans tout cela, c'est que 65 ans pour un bluesman, un saltimbanque des ghettos, ce n'est, comme on dit, déjà pas si mal. Les concerts, eh bien, je vous en donnerai la liste à la fin de l'émission. C'est une nouveauté dans Black and Blue. Une bonne nouvelle pour les auditeurs des régions Limousin, Poitou, Charente. Chaque semaine, Bernard Malabre présente à Limoges sur la chaîne FR3 une émission de jazz moderne en modulation de fréquence. Son titre Jazz Off, elle est diffusée le vendredi entre 9h et midi. À signaler que pour les annonces de concerts, les communications diverses, les auditeurs intéressés peuvent s'adresser à émission Jazz Off FR3, 6 boulevard Victor Hugo, Limoges, 87 000. Le 10 de la semaine, eh bien une chose immense, un délice. Et si vous voulez la recette de ce délice, eh bien c'est très simple. Vous prenez un saxophone alto, vous emmanchez au bout adéquat un Likonitz, vous injectez dans la machine un bon vieux standard laminé par des générations de saltimbanques comme de Sangizio, vous plantez un micro là-devant et vous enregistrez ce qui se passe. Vous éditez ça sous le nom de Lonely. Lon est plus loin Lee à cause de Likonitz, c'est parce que Likonitz joue tout seul dans ce disque. Et vous attendez que les critiques spécialisées racontent un peu partout que c'est génial. Eh bien, c'est QFD, c'est génial, et c'est en plus une marchandise qui vous fera de l'usage. Un disque comme ça, ça ne s'épuise pas tout d'un coup. Retenez bien le titre, Lonely, c'est le disque que vous ne pouvez pas vous permettre de rater, surtout si vous croyez que Likonitz était un petit monsieur blanc à lunettes qui expirait dans un saxophone à l'époque où Charlie Parker flanquait le feu un peu partout. Merci pour lui.
Sandrini n'a aucun rival à Paris dans le domaine de l'information, il sait tout avant tout le monde, et notamment dans ce qui se situe aux frontières du jazz. Pour Alessandrini, nous vous écoutons.
Succeed at last.
Oui, Lucien Malson, et je vous remercie pour cette gentille chose que vous avez dit de moi.
Après, c'est le pas un compliment, c'est la pure et simple vérité. Vous
merci
bien, Paul. C'est
merci
pour ça que vous êtes là, d'ailleurs.
Oui, effectivement, après le calme plat qui succéda aux fêtes de fin d'année, la reprise des concerts de rock s'annonce éclatante, avec notamment la venue en France de ceux que l'on a coutume d'appeler les grands groupes et leurs figures mythiques. En effet, les festivités commenceront avec deux concerts des Who, les 1er et 2 mars au pavillon de Paris, anciens abattoirs de la Villette, dont on nous dit qu'ils ont été enfin aménagés en véritable salle de concert, une salle gigantesque qui peut contenir entre 10 et 15 000 personnes.
Nous aurons beaucoup, d'autres... beaucoup plus que les Who, autrefois. Quoi.
Nous aurons d'autres occasions de vérifier que ce fameux pavillon de Paris est réellement devenu un endroit correct, un lieu... intéressant pour écouter de la musique avec les trois concerts des Rolling Stones. Et oui, c'est officiel maintenant, les Rolling Stones donneront trois concerts à Paris les 25, 26 et 27 mars. Trois jours avant, le 22 mars, toujours au même endroit, nous aurons une autre figure de légende, Neil Young. Il ne s'est jamais produit en France et jouera avec son groupe. Vous savez, Neil Young, c'est l'ancien partenaire de Crosby, Stills & Nash qui s'était notamment illustré au cours du festival de Woodstock. En avril, entre le 19 et la fin du mois, on ne sait pas encore tout à fait précisément la date, le premier show de David Bowie en France. Je voudrais aussi, à propos de David Bowie, vous signaler que la semaine dernière, j'avais annoncé la sortie imminente de son nouvel album Station to Station. Eh bien, c'est fait. Et cet album, je l'ai appris depuis puisque je l'ai, et la musique du film... d'un film qu'il a tourné sous la direction de Nick Rogue qui avait réalisé Performance avec Mick Jagger. Ce film, qui s'appelle The Man Who Fell the Earth, doit normalement sortir dans le courant du mois de février. Donc on aura l'occasion d'en reparler.
C'est vous un l'avez
film
vu
de
science-fiction.
Non, je ne l'ai pas encore vu. C'est un film de science-fiction. Station to Station, la musique est bien très proche du précédent album Young American. David Bowie flirte avec la musique funky, la soul music. Je voudrais aussi vous parler de la sortie d'un autre film, The Harder They Come. The Harder They Come, c'est un film mythique sur le monde du reggae avec Jimmy Cliff. Sortie prévue là aussi mi-février, c'est l'histoire d'un jeune Jamaïcain qui cherche la gloire dans le monde ambigu et sauvage du show business de Kingston, la capitale de la Jamaïque. Il mourra au moment où le disque qu'il a enregistré pour $25 devient un succès. Jimmy Cliff, The Harder They Come, ne ratez pas ce film, sorti prévu fin février. Je voudrais aussi rectifier une information que j'ai donnée la semaine dernière. Le concert du groupe allemand de Cosmic Music Tangerine Dream, qui aura lieu demain 26 à 20h30, n'aura pas lieu au Palais des Sports, mais à l'hippodrome de la Porte de Pantin. Quant au gong, il se produira le 31 janvier au Bataclan à 19h. Je voudrais terminer avec une nouveauté. La semaine dernière, je vous annonçais la sortie tout à fait proche du nouvel album de Lou Reed. Eh bien, il est là sur les platines de Black & Blue, et je vous ferai écouter un morceau qui s'appelle Oh Baby. Vous verrez que Lou Reed a renoncé à la musique pour marteau-piqueur, qui était un peu la définition du précédent Metal Music Machine. Et là, nous avons un Lou Reed tout à fait traditionnel.
Everybody's just staring at, but now you're a topless dancer working out of a bar on Times Square, and everybody wishes you were back in the massage parlor back there on 8th Avenue. You make me go ooh baby, ooh baby, ooh baby, ooh ooh ooh, ooh baby, ooh baby, ooh baby. Ooh, the best B&E man down on the streets, and all the guys on the precinct always was watching for him on the beat. But when he ripped off Seymour, he was really not a doing so fine.
Merci Paul Alessandrini. Quelques instants, le temps que Bernard Cerchiglini et Henri Renaud s'installent autour de cette table et nous retrouvons notre vieux compagnon Lester Young. Henri Renaud, Bernard Cerchiglini, nous allons retrouver, je le disais il y a quelques secondes, Lester Young, musicien que nous aimons tous les trois et que vous aimez particulièrement vous. Et non seulement vous l'aimez, mais vous avez pour vous, Henri Renaud, fréquenté ce musicien de son vivant. Vous avez joué avec lui, en sa compagnie, à Paris. Pour vous, Bernard Cerchiglini, vous l'avez fréquenté en disque et vous continuez de le faire. Nous allons d'ailleurs, avec vous, écouter Lester ce soir. Et je crois que l'un des points de notre réflexion à propos de Lester Young, ce sera quelque chose qui n'est pas très original, mais sur laquelle qualité de Lester on pourra s'interroger, à savoir la détente merveilleuse dont tous les critiques ont parlé, tous les amateurs parlent encore, cette détente qui est très sensible dès l'emblée de sa carrière dans les disques de Bézi, par exemple. Autrefois la musique de jazz pour la qualifier dans son authenticité, la musique haute, et je pense qu'on a dit aussi de Lester Young qu'il était un musicien précurseur du jazz cool, c'est-à-dire du jazz frais et non point froid. Il avait des prédécesseurs dans Bix Beiderbecke et dans Joe Smith, peut-être dans Jimmy Noon, Lester Young, mais enfin il est vrai, Henri Renaud ne me démentira pas je pense sur ce point, il est vrai qu'on a fait de lui le père du cool jazz sur le plan de cette détente dont je parlais tout à l'heure.
Oui, ce qu'on a appelé le cool jazz, à tort ou à raison, il faut bien le dire, peut provenir d'une partie du jeu de Lester Young. Parce que Lester n'a pas influencé seulement les musiciens qui ont porté cette étiquette. Il a tout simplement changé la façon de concevoir le jazz. Il n'a pas influencé seulement ses confrères saxophonistes ténors, il a influencé tous les instrumentistes et de nombreux arrangeurs, orchestrateurs.
Je pense que c'est une révolution sur le plan du timbre instrumental, c'est vrai, sur le plan de l'utilisation des harmonies, sur le découpage rythmique,
oui,
tout ça,
c'est tout vrai. Point de vue, de la sonorité, ce qui fait, il a, pas rejeté, mais enfin, il ne joue, Lester, quand il arrive, grâce au disque en 1936, joue sans vibrato, sans le vibrato d'Hawkins. De plus, il joue de façon linéaire, un petit peu comme Bud Powell, par exemple, fera 10 ans après, ou Charlie Parker. Puis alors il a une façon de construire ses phrases, de passer... vous savez, le jazz de cette époque-là était construit sur des chansons, des thèmes de 4 fois 8 mesures. Et la plupart du temps, dans les solos, on remarquait que les gens découpaient leur chorus suivant les 8 mesures. À la fin des 8 mesures, on s'arrêtait, on respirait, on partait. Lester néglige tout ça. Au contraire, mais il prend des libertés extraordinaires pour l'époque. Enfin, il a tout changé, quoi. Il a tout changé comme Louis Armstrong avait tout changé 10 ou 15 ans avant lui.
Alors, on parlait de la détente, parce qu'il faut bien citer quelque chose qui est un trait caractéristique de Lester Young pour entamer une conversation. Et moi, je pense que cette détente qu'il y a dans la musique de Lester Young, c'est une sorte de traduction sur le plan esthétique d'une immense paresse dont il s'est toujours accusé sur le plan de l'existence. Peut-être qu'il a converti ce que l'on appelle un défaut, tout au moins dans la philosophie du travail, qu'elle soit bourgeoise ou prolétarienne, il a converti ce défaut en qualité. Mais peut-être Bernard Cicchiglini a-t-il un autre point de vue sur cette détente lesterienne.
Paresse, ça, non, certainement pas,
voilà,
à mon avis.
Ça commence.
Disons, si on doit jouer au jeu des influences, je serais d'accord avec vous, pour les influences, disons, en amont, certainement. Mais en aval, je crois qu'on a une lecture de Lester qui est faite par les gens du cool, et c'est cette lecture de la détente. Qualifier finalement le style de Lester de style détendu, je crois, mais je ne serais même pas d'accord non plus. Il faudrait être sûr d'abord que la détente soit une valeur esthétique, éventuellement reconnue par Lester. Disons qu'il me semble que la détente participe, disons, du mode de vie américain, certainement, et qu'on a là une bonne image de ce que pouvait être ce jazz blanc qui lisait Lester. Je crois qu'au lieu de détente, je dirais plutôt déconnexion, dérive à partir de la musique du jazz, c'est-à-dire qu'une sorte de réponse de Lester à une série d'agressions qui font qu'il prend ses distances, je crois, que je préférais dire ça, vous voyez.
C'est peut-être possible aussi, oui, effectivement. Mais enfin, ce qui se sent dans la musique de Lester Young, c'est cette espèce de nonchalance qui n'est pas aussi sensible chez Armstrong, par exemple. Armstrong est un musicien plus tendu, certainement.
C'est-à-dire que, Lucien, il ne faut pas oublier que, à sa grande époque, Lester swingait très solidement, rythmiquement parlant. Bon. Il swingait comme Louis Armstrong en jouant profondément sur le temps. On vient de l'entendre dans Lady Be Good, là, c'est extraordinaire, quoi. Bien sûr, il a une sonorité plus légère que celle de Hawkins, parce qu'on le compare toujours à Hawkins, on ne peut pas faire autrement. Tout ce qu'on peut dire, que vous voulez, c'est que si Hawkins a inventé le saxophone ténor, Lester l'a réinventé. Mais qu'en plus, Lester a inventé une façon de jouer le jazz, une nouvelle façon de jouer le jazz. Ça, c'est pas donné à tout le monde.
Alors, vous dites la grande période de Lester Young, c'est-à-dire la période de l'époque de Cambesi.
C'est-à-dire Lester Young en bonne santé.
Jusqu'à quand, alors?
Lester Young en bonne santé, alors attention, il ne faut pas que je dise de bêtises, quand même, tant que je ne voudrais pas de salir la mémoire d'un homme pareil. Mais enfin, il a commencé à enregistrer en 1936, là, on le sent gai, heureux de vivre. Et puis, voyons, c'est les disques Aladdin, les disques avec Buddy Rich et King Cole, 45. Et je crois qu'après, à partir de ce moment-là, Lester commence à perdre petit à petit ses moyens. Pour ne plus avoir envie ni de jouer ni de vivre, du reste. Et se laisser mourir comme un pauvre misérable en 59. Il faut dire que, quand je l'ai rencontré en 51 à Paris, il refusait déjà toute nourriture. Il se contentait d'absorber énormément de whisky. Alors évidemment, même une constitution comme celle de Lester, qui était un grand gaillard, ne pouvait pas tenir un tel régime.
Il ne se droguait pas, Lester?
Non.
On a raconté ça, c'est faux.
Non, c'est absolument faux. Non, non, Lester n'a jamais fait ça. Mais alors, il buvait énormément. Il n'était pas le seul, ni dans le jazz, ni dans...
Il buvait sans manger, c'est ça qui est grave.
Il buvait sans manger, au contraire de Kermit Hawkins, qui lui buvait énormément aussi, mais qui mangeait comme quatre. Qui avait toujours son frigidaire rempli de morceaux de bœuf.
Notre ami Henri Renaud disait tout à l'heure que Lester Young a commencé de perdre ses moyens vers la fin des années 40, ne précisant pas le jour et l'heure où il a perdu ses moyens, ce serait absurde.
Début des années 50,
mais,
voilà.
Mais l'expression a défrisé un peu Bernard Cerchiglini, et je crois qu'il veut revenir sur cette expression, la perte de moyens.
Oui, je crois que simplement il abandonne certains de ses moyens de façon tout à fait volontaire. Je crois qu'il y a toujours chez Lester une grande intelligence. Et simplement, les choses deviennent plus dramatiques. Après la guerre, après les 15 mois de prison, parce qu'il avait fumé un peu, et puis le juge blanc était raciste, il avait donc collé le maximum. Après la guerre, il faut donc abandonner certaines choses. Et cet isolement qu'on vient d'entendre déjà dans Is It Does It, eh bien, ça devient presque une sorte de renfermement dans un discours musical propre. Alors, il faut abandonner le swing, peut-être. Éventuellement, vous avez dit qu'il ne swing plus, peut-être parce qu'il ne veut plus swinger.
Non, j'ai
mal compris, excusez-moi.
Non, j'ai dit que toutes ses qualités se sont amenuisées, ses idées se sont fait moins variées, sa sonorité est devenue plus petite.
Mais oui, mais je crois que tout ça,
etc.
Enfin, volontaire.
Oui, d'accord.
Regardez, on pourrait avoir toute une série de choses, par exemple, les petites formations. Il se met à jouer en petite formation, il aime ça, c'est-à-dire des accompagnateurs.
Bien sûr, un improvisateur comme lui ne pouvait pas aimer ne jouer que 8 ou 16 mesures dans chaque morceau, c'est évident.
Bon,
il n'y a pas que lui, ça c'est le cas de tous les grands solistes de jazz.
Absolument, les mélodies. Après la guerre, Lester joue toujours les mêmes mélodies. Finalement, des mélodies du standard qui ne l'intéressent pas vraiment. Ce qui l'intéresse, c'est de permettre de bâtir un discours musical après. Regardez les disques.
Lester était très intéressé par les standards, ça je peux vous le dire.
Oui, parce qu'il pouvait en faire quelque chose, je veux dire.
Évidemment, mais il aimait ce genre de mélodie au départ.
Vous voyez, donc je crois qu'il y a simplement une sorte de bilan que fait Lester. Et c'est net aux sessions Aladdin, comment jouer, c'est-à-dire comment finalement vivre, puisque c'est la seule façon qu'il a de vivre dans un monde qui est une perpétuelle agression contre lui. Il est noir, Lester, il le dit sans arrêt. Même la dernière interview qu'il a donnée à Jazz Hot, il dit à l'intervieweur blanc, de toute façon vous n'avez pas de problème, vous êtes blanc.
Ça, je pourrais vous raconter une anecdote à ce sujet-là, d'ailleurs.
Allez-y. Hein.
Eh bien, quand il est venu à Paris, la première fois en 51, Jimmy Gourlay et moi allions le voir. Il était resté à Paris pendant 8 jours. Le Jazz Philharmonique avait pris 8 jours de vacances. Et Jimmy Gourlay et moi allions donc le voir tous les après-midi au Claridge. Et on lui avait dit, nous jouons dans un club qui s'appelle Le Tabou. On aimerait bien que vous y veniez. Et alors, il a dit, avec sa façon de parler, le président sera là ce soir à minuit. Et effectivement, à minuit...
C'est parler à la troisième personne.
Oui. Pas de façon prétentieuse, pas du tout, comme ça. Alors à minuit pile, on a vu Lester descendre du taxi, il est venu, et alors au début il s'est méfié un petit peu. On lui a dit, asseyez-vous, voulez-vous prendre quelque chose? Il a dit, non, je ne bois pas. Il était donc seul noir au milieu d'une assistance blanche, et il nous a dit après, en montrant ses cheveux, vous voyez, Je suis noir et j'ai l'habitude de me méfier. Mais il a compris, une demi-heure, une heure, qu'il était chez lui. Et il s'est mis à danser, à jouer. Il était très heureux. Enfin, ceci pour dire que le fait d'être noir l'a vraiment beaucoup plus marqué que d'autres musiciens.
Oui, ce qui m'a intéressé tout à l'heure, c'est que vous avez dit, Lester avait dit, le président arrivera à minuit, je me rappelle bien. Et Lucien Malson a dit, il parlait de lui à la troisième personne. Et
j'ai dit, il se parlait d'ailleurs, parce que peut-être que c'était ça aussi. D'ailleurs.
Oui, j'ai repris votre expression, c'est tout à fait intéressant. Il y a certainement chez Lester un aspect de presque de dédoublement, ne disons pas schizophrénie, ou du moins conduite, qui pourrait ressembler à de la schizophrénie. Je crois qu'il y a une sorte de distance par rapport aux choses et par rapport au langage, je crois. Et quelque chose qui m'intéresse, c'est le langage de Lester. On dit dans les articles qu'il avait des mots à lui, des expressions, j'en ai collectionné deux ou trois, mais rien de plus. Et j'ai l'impression qu'il y a chez Lester une volonté de nommer à nouveau les gens, les choses, pour presque se les approprier un petit peu, pour
je crois que
mettre une marque.
C'est une façon de plaisanter, parce que c'était un garçon qui aimait bien rire, quoi. Et, au fond, il appelait ses amis Lady. Par exemple, ses amis ou les autres, il disait Lady Grants, par exemple, ouais. Norman Grants, Lady Grants.
Il l'a mal pris, non ?
Non. C'est-à-dire qu'il avait une façon d'employer certaines expressions, certains mots, comme on ne les emploie pas normalement. C'est ça la grande affaire de Lester.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Par exemple, il voyait arriver une femme très grande. Alors on entendait, il disait longue distance, par exemple. Il fallait savoir qu'il s'agissait bien de ça. Bien sûr, c'est pas mystérieux, on peut comprendre ce que ça veut dire. Mais si on ne sait pas, si on ne connaît pas Lester, personne ne réagit. Si on connaît Lester, en longue distance, on regarde, on cherche dans la salle, on s'aperçoit qu'il y a une dame normalement grande, longue distance.
Il y a donc un langage peut-être des copains, que seuls les gens qui sont tout près, c'est-à-dire quelques musiciens dont vous étiez, peuvent comprendre, pas les autres.
Oui, vous savez que les Noirs ont toujours eu cette habitude-là. Mais Lester, lui, avait une façon, avait toutes sortes d'expressions et de mots comme ça qui était de lui.
Mais je crois plutôt qu'en argot, il me semble que c'est plutôt une pratique, c'est-à-dire une volonté de nommer à nouveau. J'en prendrai un seul exemple. Dans les sessions Aladdin, Lester se sert de la structure rythmique et mélodique de I Got Rhythm qu'on vient d'entendre plusieurs fois, parce que ça lui est égal finalement. Et puis, il est obligé de nommer. Eh bien, il met des noms qui sont à lui. Il y a No Eyes Blues, par exemple, qui est une expression lesterienne. Et puis surtout, le morceau qu'il enregistre, le premier morceau qu'il enregistre de cette session, I Got Rhythm devient DB Blues. Et qu'est-ce que c'est DB Blues ? C'est Detention Barracks Blues. Il sort de la tôle militaire. Je crois que c'est pas innocent, tout à fait. C'est pas uniquement pour rire.
Lester Young, il faut bien quand même se souvenir que Renaud, lorsqu'il l'a fréquenté à Paris la dernière année, était un homme très fatigué, très usé. Et je crois que ce que veut défendre Bernard Cerchiglini, et il n'est pas le seul, c'est que le seul domaine qui, jusqu'à la fin, était un domaine réservé, c'était celui de la musique. Et que cette immense fatigue n'a pas atteint son art en plein cœur, loin de là, qu'il a conservé jusqu'au bout, la capacité d'exprimer sa musique avec une beauté parfaite. C'est un peu ce que je crois comprendre chez vous, Bernard Cerchiglini.
Certainement, je crois qu'il n'y a pas un bon Lester et un mauvais Lester. Il y a simplement un musicien qui réfléchit continuellement sur son art, qui est de plus en plus isolé, qui a de plus en plus de difficultés à vivre, et certainement peut-être à jouer, mais qui continue à jouer, à progresser de façon intelligente. Et je crois que le Death Fully Things qu'on vient d'entendre est une bonne illustration, et par exemple le Lester Lipsin qu'on va entendre pour terminer est une sorte de démontage très astucieux des Lester Lipsin qui jouaient avant-guerre, pour en exhiber presque tous les tours, pour dire voilà, à certaines époques j'ai fait ça, maintenant il faut faire autre chose, ou je ne garde que quelques éléments. Je reviens à cette idée, j'y tiens, il y a un abandon progressif de certains éléments de son jeu, d'un matériau, mais c'est toujours très volontaire. Les derniers moments que vous avez connus sont simplement la coda finale, je crois, mais en 56 encore, c'est tout à fait intéressant.
Ah ben, c'est-à-dire qu'en 56, il venait d'être soigné, Lester, il était désintoxiqué, il ne buvait plus d'alcool et il jouait au Club Saint-Germain ici. Il était très gai, c'était un nouveau jeune homme. Tandis qu'en 59, il avait repris cette mauvaise habitude, il ne mangeait plus du tout. Ben Benjamin, le directeur du propriétaire du Blue Note, essayait de lui donner tous les soirs, il fallait le voir partir avec ça, d'ailleurs un petit paquet de nylon où il avait glissé un morceau de pain, un morceau de fromage, mais Lester n'y touchait même pas. Et vraiment, il ne voulait plus vivre, Lester, ça ne l'intéressait plus.
Oui, alors le problème qui se pose à nous, et c'est un problème sur lequel il faudra que nous revenions en Black and Blue un jour, c'est le problème de savoir si un moment, un affaiblissement physique n'entraîne pas chez un musicien qui est obligé de se servir de ses doigts et de souffler dans une hanche, l'impossibilité d'être lui-même, tel qu'au moins il s'était manifesté à nous auparavant. Je disais un jour à quelqu'un qui défendait ce point de vue, qui est celui de Cerchiglini ce soir d'ailleurs, qu'il partage avec pas mal d'autres amateurs de jazz, qu'il fallait bien qu'un jour Lester Young, comme tout le monde d'ailleurs, meure. Lester est mort effectivement, et a poussé très loin ce raisonnement, selon lequel Lester n'a jamais été diminué dans sa musique. On pourrait penser que même son dernier souffle était très musical.
Ah, pourquoi pas, finalement.
Voilà, je le soutiens. Alors, voilà le problème. C'est un problème de limite.
Je vais prendre le terme autrement, c'est un problème de barrière. Vous savez qu'on raconte justement qu'il est mort en jouant, il n'avait pas l'instrument, mais il a chantonné. Je voudrais bien savoir ce qu'il chantonnait. Simplement, les barrières qu'il a établies face au monde ont fini par craquer, c'est évident. Et d'où ce vide qu'il y avait en lui, que vous décrivez Henri Renaud, je crois. Mais ça, c'est l'accessoire, ça a craqué, c'est tout. Et je crois qu'il ne faut pas réexpliquer, encore une fois, avant par cette maladie. Pas du tout. Je crois que les barrières étaient solides. Thank you.
Alain Gerber revient pour les dernières informations. Alain Gerber a écouté avec des hochements de tête, les uns approbateurs, les autres fortement dénégateurs, cette conversation sur Lester Young. Il brûlait d'intervenir, ce sera pour une émission très prochaine, je pense. Il vient de me confier qu'il aimerait bien écrire, lui, un livre qui ressemble au dernier concert de Lester Young, voire à son dernier chorus. Bon, voilà une déclaration d'une grande modestie. Quelques concerts à annoncer, Alain.
Oui, des manifestations dans le jazz à Paris et en province. Demain, par exemple, 26 janvier, n'oubliez pas, concert gratuit à 20h30 au studio 105 de Radio France. Premier et unique concert d'ailleurs à Paris de Graham Collier Music, avec notamment le trompettiste Harry Beckett, le trombone Malcolm Griffiths et le saxophoniste Alan Skidmore. Ce sont trois musiciens particulièrement remarquables qui nous viennent d'Angleterre. Le même jour, au Théâtre Mouffetard, se produiront Jacques Bérocal et Roger Ferlet. Le lendemain, 27 janvier, Johnny Griffin à Fontaine-Douche. Le concert débutera à 20h45. Et le 29, à 20h30, cette fois, Glucose Confectionnerie au Musée d'Art Moderne. Le 30, à la Maison de la Culture de Nevers, Pianissimo, c'est-à-dire Georges Arvanitas, Claude Bolling, Martial Solal et François Tusk, ils joueront successivement et non pas ensemble, le concert, cette fois à 20h30. Et à Paris le même jour, le 30 donc, une heure plus tard, le groupe Chute Libre au Club des Ingénieurs Arts et Métiers, 9 bis avenue d'Iéna. Enfin, samedi prochain, 31 janvier à 18h, un concert au Théâtre Mouffetard sous le patronage du Centre d'information musicale. Au programme, le saxophoniste Jean-Claude Forenbach, accompagné par Frédéric Sylvestre à la guitare, Albi Culaz à la contrebasse et Philippe Combel à la batterie. Le même jour, mais à 20h45 et au Nouveau Carré, Salle Papin, Aude de Cornillac et à Limeil Brévan à 20h30, Evan Chandly à la Maison de la Culture. À retenir, Likonitz et Martial Solal joueront ensemble en France à partir du 9 mars.
C'était Black and Blue, conçu et réalisé avec le concours de Paul Alessandrini, Alain Gerber, André Francis et moi-même, et mis en page par Jeannot Castel. Nous avons reçu ce soir Henri Renaud et Bernard Cerchiglini. Henri Renaud a parlé avec Bernard Cerchiglini de Lester Young, et Henri Renaud remettra ça, si j'ose dire, un peu populairement, pendant une semaine sur France Musique, à partir de demain lundi, de 12h45 à 13h15, toute la semaine. Henri Renaud amènera des disques de Lester Young et fera à son propos les réflexions qui iront dans le sens, je pense, de la réflexion de ce soir.
C'était Lester Young dans l'émission Black and Blue, diffusée sur France Culture le 25 janvier 1976.